pour les sécures, épisode technique. Je suis convié de Sébastien.
Salut.
Va bien?
Ça va très bien, merci.
Plaisir. Aujourd'hui, on va parler du réseau en Kubernetes. Pour moi, c'est un mystère assez intense. Mes premières expériences ont été un peu hasardeuses de ce côté-là. Fait que je vais t'essayer d'expliquer comment ça fonctionne, d'où ça part, puis ensuite, on va voir d'où c'est rendu maintenant.
Oui. Je te confirme, c'est un mystère. C'est un mystère pour moi aussi. Pas parce que c'est compliqué. Si, c'est compliqué, mais non seulement c'est compliqué, mais il n'y a pas une manière de faire. Alors, je vais essayer de repartir du début, de l'inception de Kubernetes. On va essayer de reprendre les briques un petit peu. Dans Kubernetes, on a toujours notre API serveur. On a des serveurs qui sont attachés, des nœuds, qui exécute une petite application qui s'appelle le kubelet. Donc, c'est elle qui prend les informations du API serveur et puis qui exécute certaines choses sur chacun des serveurs. Donc, il y a un kubelet par serveur. Et donc, sur chacun des serveurs, on va avoir des déploiements qui sont ce qu'on appelle des pods au milieu dans Kubernetes, mais qui sont... un pod, c'est une entité qui est composée de plusieurs containers. Et ça, un container, c'est quelque chose qui existe quelque part au niveau Linux, au niveau du kernel. Donc, en général, dans un cluster Kubernetes, on a donc des serveurs qui ont chacun une IP. En général, ils sont sur le même LAN, sur le même réseau routable. Donc, les serveurs peuvent se parler entre eux. Et puis, à l'intérieur de ça, on a des pods qui vont avoir un autre réseau pour les pods qui est géré par le kubelet l'API serveur qui va attribuer des IP. Et puis, on a des services donc qui sont des espèces de load balancer, des points d'entrée et qui vont load balancer le trafic entre les différents réplicas d'un même pod. Donc si on a trois web serveurs, ben notre service il va load balancer le trafic entre les trois. Et donc ce service lui aussi, il a une IP qui est en général sur un LAN dédié pour les services. Parce que on veut pas qu'il soit genre pour des raisons de routage, en gros, on veut que le LAN de service et le LAN de pod soient différents et que le trafic ne puisse pas passer de l'un à l'autre directement, mais qu'il y ait vraiment un mécanisme nécessaire de routage entre le service et l'IP du pod. Okay? Donc, là, on vient de mettre en place le schéma de base. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer dans un cluster Kubernetes? Bon, on va avoir un pod qui parle à un deuxième pod. S'ils sont sur le même serveur, c'est génial parce qu'ils ont deux IP dans le même LAN, c'est routable, ils peuvent se parler. Mais si on a deux pods sur deux serveurs différents, chaque pod a une IP qui n'est pas routable, qui est comme un réseau privé et qui n'est pas routable entre les deux serveurs, alors là, qu'est-ce qui se passe? Bon, mais là, la décision qui a été faite au départ de Kubernetes, ça a été de mettre en place un système de routage, de réécriture, de port et d'IP qui a été basé sur IPTable, qui est le firewall par défaut de Linux. Et donc, de par une certaine connaissance, ou en tout cas, le kubelet va venir modifier les règles de firewall, les règles de routage, de masquerading et ainsi de suite, pour dire, le pod qui a l'IP là-bas, que tu ne sais pas comment y aller, en fait, pour y aller, il faut que tu passes par l'IP de la machine pour te retrouver de l'autre côté jusqu'à l'IP de l'autre machine qui contient le pod. Et donc, il y a tout un mécanisme comme ça qui est transparent pour l'utilisateur. On peut très bien utiliser Kubernetes et ne jamais aller mettre le nez là-dedans. Et ça va marcher tout seul. Donc ça, c'est un deuxième cas de figure. Donc, un pod qui parle à un pod sur une autre machine. Il y a un troisième cas de figure, mais quelque part qui ressemble, c'est... Moi, je suis à l'extérieur du cluster et je veux parler à quelque chose qui est à l'intérieur du cluster. Donc, je veux parler à un service qui est à l'intérieur, quelque part. Donc, ça me prend un point d'entrée dans le cluster. Et puis, on va taper dans un service qui est sur son LAN spécial. Et donc là, il faut, encore une fois, que ce qui sort du service, on décide soit de le donner à un pod qui est local sur la même machine, soit un pod qui est distant sur une autre machine. Donc là, encore une fois, on rentre dans notre logique d'IP table et de règles de réécriture et de forwarding et ainsi de suite pour décider à qui on va envoyer le paquet. Et de l'autre côté, quand le pod sur l'autre machine doit répondre, lui aussi, il y a toute une problématique de dire « Mais qui était la machine originale qui a eu la connexion et à qui il faut que je renvoie le paquet ?» Donc, c'est ça. Il y a toute une logique compliquée. Donc, un des premiers réseaux qui a été implémenté et qui a fait toute cette logique en utilisant le firewall de Linux, c'est Flannel. Donc, c'est le réseau de base. Et très souvent, quand on installe un cluster Kubernetes, c'est le réseau qui est utilisé de base. On s'est rendu compte assez rapidement que ça scalait difficilement. Parce que quand tu te retrouves avec 10 000 règles IP table, le firewall de Linux, il commence à plus savoir quoi faire. Quand tu as des mappings de ports entre le port que tu as déclaré pour joindre le pod, mais le vrai port qui a été ouvert sur l'interface de la machine, ça, c'est des ressources qui sont limitées au niveau Linux. Donc, à un moment donné, soit tu peux ne plus en avoir, soit tu peux en avoir tellement que tu n'as plus assez de mémoire pour les bufferiser et pour garder en mémoire quel paquet a été translaté sur quel port et sur quel IP. Donc, voilà, ça pose des problématiques. Donc, il y a des gens...
Ouais, ça crée un overhead assez extraordinaire. D'un côté, un aspect de la magie de Kubernetes, c'est justement d'arriver vers une couche d'abstraction très, très importante par rapport à cet élément-là. C'est-à-dire que l'utilisateur ne le voit pas, mais toute cette logique de discussion entre les pods sur différentes machines est complètement invisible. Ça, je trouve ça fantastique d'avoir fait ça, mais effectivement, ce modèle-là, il y a des limites très importantes et... quand on grandit, les classeurs grandissent, ça finit par pas être viable.
Exactement. Donc, ça, c'était la base. Au tout départ de Kubernetes, c'était pas vraiment configurable, ce truc-là. Mais très rapidement, les développeurs se sont rendus compte que ça prenait autre chose. Et donc, ils ont décidé de sortir cette logique de couche réseau du corps de l'API, du corps du logiciel. En gros, ils l'ont externalisé. Et ça, c'est devenu un plugin et qui s'est appelé le CNI, donc qui est le Cluster Network Interface plugin. Et en gros, qui est une manière de... n'importe qui peut développer un petit programme, petit ou pas d'ailleurs, mais qui va assurer cette logique de quels sont les IP qu'on va donner à nos pods, quels sont les IP qu'on va donner à nos services, comment est-ce qu'on va router le trafic d'un pod à l'autre, d'un container à l'autre, d'un node, d'un serveur à l'autre. Voilà. Et donc, quand ça a été fait, ça a ouvert la porte à des gens comme Calico, par exemple, donc, qui se sont dit, eux, ouais, c'est vrai que le système de routing avec la réécriture d'IP et ce genre de trucs, c'est compliqué, et puis ça prend des ressources, et puis c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'efficace qui existe et qu'on utilise dans le réseau à grande échelle pour faire du routage à l'heure actuelle? On utilise BGP. Et donc, il y a eu une implémentation avec un routing qui était basé sur BGP, le protocole BGP, donc une autre manière de décrire comment on veut router le trafic et une manière de comment transmettre cette information de routage entre différents nœuds, donc entre différents serveurs en l'occurrence dans notre cas. Voilà. Donc ainsi est né Calico. Et l'avantage, entre autres, d'utiliser certains modèles, c'est que ça a ouvert la porte à mettre en place des network policies. Voilà. Donc, les network policies de base, le plus simple qu'on peut imaginer, c'est est-ce que ce pod a le droit de parler à ce pod-là? Alors, par défaut, il faut le savoir, par défaut, dans Kubernetes, tout est ouvert. Donc, en gros, n'importe quel pod de n'importe quel namespace peut parler à n'importe quel autre pod, peu importe où il soit dans le cluster. Ça, c'est la base dans Kubernetes, c'est zéro sécurité au niveau réseau. Donc, il y a des gens qui attendaient avec pas mal d'impatience des choses comme Calico. De mémoire, Calico a été un des premiers à implémenter les network policies. Il y en a eu d'autres. Il y a Weaveworks qui a travaillé aussi sur d'autres solutions dont je ne me souviens plus, qui existent peut-être encore. Je ne sais pas à quelle ampleur ça peut être utilisé, mais bref. Donc, les network policies, c'est ça. Alors, il y a une problématique côté réseau parce qu'il faut effectivement instrumentaliser la couche réseau pour dire ce paquet-là, il passe ou il ne passe pas. Et il y a une partie au niveau de l'API de Kubernetes. Donc, ça, c'est des custom resource definition qui permettent de décrire ben, qu'est-ce qu'on met, c'est de comment se forme, comment s'écrit une policy au niveau réseau. Donc, en général, ben, c'est tel port, tel pod, excusez-moi, tel pod peut parler à tel autre pod sur tel port, ou alors tel name, les choses de tel namespace peuvent parler à tel autre namespace. Voilà, c'est en tout cas, il y a plusieurs granularités qu'on peut venir modifier à l'intérieur de nos policies. Mais donc, sachez que donc, ça dépend de notre CNI, donc, qui est la couche réseau de notre cluster. Certains CNI implémentent des network policies et d'autres ne le font pas.
Ça devient très intéressant d'avoir des policies à ce niveau-là parce qu'on est capable de réussir d'un point de vue plus macro, de plus, façon plus générale, des éléments qui viennent contrôler ces éléments-là d'un point de vue réseau. Ça vient, à certains égards, ça donne la capacité de donner tout ce qui est zéro trust, par exemple, d'être capable de déployer à ce niveau-là, au lieu de le configurer par chacun des pods qu'on met en place, ben là, on peut le mettre de façon massive, dans lequel on est capable de le configurer de façon end state, on est capable de définir comment on veut vraiment déployer nos différents éléments. Sécurité réseau qui permet justement aux pods, entre autres, de se contrôler, de pas devenir un espèce de fouillis. Et si puis d'un point de vue sécurité, moi, je regarde la zone de déflagration, mais on est capable de segmenter correctement la zone de déflagration pour limiter et revenir à ce qu'on cherchait à faire hors Kubernetes. Puis on est capable de l'importer. Et de façon probable, à mon avis, beaucoup plus simple parce que dans une policy, c'est plus facile à mettre en œuvre que de commencer à configurer tous les éléments d'infrastructure que ça demanderait dans le réel. Là.
Exactement. On repense ce qu'on faisait autrefois avec des firewalls au niveau du réseau, des équipements sur le réseau. On déporte ça en logique à l'intérieur de chacun des serveurs qui va autoriser ou pas le trafic. Alors, entre différents serveurs, voire même à l'intérieur de même serveur. Hein, puisque si on zoomait un petit peu sur qu'est-ce qui se passe quand on crée un pod, alors je vous rappelle, un pod, c'est un groupement de containers. Quand on crée un pod dans Kubernetes, la première chose qui arrive, c'est qu'on crée une interface virtuelle, une interface réseau virtuelle à l'intérieur du nœud. Et ensuite, les pods vont avoir des IP qui vont être attachés à cette interface réseau virtuelle. Voilà, donc comme on a une interface réseau, on peut l'utiliser comme entité pour définir des policies au niveau de notre firewall local. Et donc définir est-ce que ça peut parler à une autre interface réseau de notre pod ou pas.
Ouais, c'était mon premier choc quand j'ai vu ça là, il y a quand même plusieurs années, puis de voir la classe interface réseau monter avec des adresses IP, ça m'avait un peu déboussolé, disons, cet aspect-là. Mais là, le fait d'avoir un policy justement vient de nous cadrer correctement parce que, un, tu as tes interfaces locales, mais inter-serveur aussi, ça va être capable de contrôler tout ce qui est possible avec ça. C'est pas d'évolution parce que tu as parlé de la deuxième évolution avec BGP. Il y a eu techniquement une troisième évolution, on pourrait dire une troisième génération d'approche pour arriver à implanter ça de façon encore plus efficace.
Exactement. Alors, dans les dernières années, il y a un nouveau style de firewall, mais je ne sais même pas si on peut appeler ça un firewall, qui s'appelle IBPF, donc EBPF. Je pense que c'est le pour Extended, c'est le Berkeley Packet Filter. Donc, c'est un style de firewall qui est une manière de faire qui existait depuis longtemps, mais qui a été étendu, amélioré, et qui est lié très profondément à l'intérieur du kernel Linux. Donc, au lieu d'être juste une couche réseau où on intercepte des paquets et on dit oui ou non, avec IBPF, on est capable d'aller chercher de l'information au niveau du kernel, à haut niveau, d'une part, et d'autre part, en exécutant à l'intérieur du kernel, alors attention, je ne suis pas un spécialiste, mais en user land, des micro-applications qui vont aller chercher de l'information dans le cluster, dans le kernel, qui vont être capables de l'analyser et de faire des choses avec cette information-là, un petit peu comme de la mutation dont on parlait. Donc, on va être capable d'aller chercher le paquet réseau qui doit sortir quelque part avant qu'il sorte et appliquer des choses sur ce paquet réseau. Donc, on va pouvoir créer des règles de routage à la volée, par exemple. Et ces règles de routage, comme elles sont générées à la volée, eh bien, peuvent être basées sur des policies. Donc, au lieu de générer des paquets, d'appliquer des policies pour voir si ça a le droit de sortir ou pas, on va être capable de regarder quel est ce paquet, où est-ce qu'il veut aller, de regarder la policy et de générer une route qui va l'envoyer au bon endroit. Donc, quelque part, la policy, au lieu d'être un firewall qui va filtrer l'événement, eh bien, ça devient une espèce de règle de routage qui va directement faire en sorte que le paquet va se rendre au bon endroit. Il ne peut pas aller ailleurs parce qu'il ne sait aller que là. Voilà. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec BPF. Donc, c'est très évolué. C'est très configurable. Et donc, il y a des gens comme Cilium qui ont créé une CNI basée sur BPF. Ça a été les premiers. Alors, Calico, maintenant, qui faisait du BGP, supporte ou a transitionné, je ne sais pas s'ils ont complètement arrêté BGP ou pas, mais utilise aussi BPF maintenant. Et donc, et comme on a cette espèce de contrôle dès la création quasiment du paquet ou du besoin de router quelque chose, on est capable de générer de l'information, de la méta-information qui va être associée à ce paquet-là. Et ça fait qu'on peut faire vraiment de la deep inspection. On peut aller inspecter quasiment à l'intérieur du kernel d'où sortent les paquets, où est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils sont autorisés ou pas à passer sans que le paquet passe quelque part. Donc, on arrive à avoir une inspection totale et une vue de son réseau comme on n'avait jamais eu avant.
Absolument. Puis justement, comme tu vois avant, même quand tu dis avant la création, tu enlèves l'overhead de la surcharge. On crée le paquet, puis on attend qu'il soit filtré par une seconde étape. Là, tu sais, filtré avant même d'exister en termes de réseau, ou quand s'il existe, ben, la route est faite au besoin quand il apparaît. Tout ça devient. Puis tu parles aussi d'instrumentalisation de ces éléments-là, parce que ça peut aller très loin. Là.
Exactement. Donc, c'est une autre manière de faire de la sécurité, ce nouveau mécanisme. Et comme tu le dis, ça enlève beaucoup de ressources, ça enlève beaucoup de contention sur la couche réseau. Alors évidemment, ça rajoute un petit peu de calcul au niveau du kernel, au niveau de... Donc, on a déplacé le mal un petit peu. Mais en termes de performance, au jour d'aujourd'hui, le système de routage avec IBPF est, je ne vais pas dire de nombre, mais peut-être 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus rapide et performant que le système Flanel qu'on avait au départ de Kubernetes, et même plus performant que le système BGP de Calico.
Ah, j'ai pas de doute là-dessus, puisque juste où l'action se déroule, il y a beaucoup moins de cycles CPU total qui est quand même consommé pour arriver jusqu'au bout du processus de filtrage que si on compare à du BGP. Bien là, tu dis ça, tu as beaucoup de couches et de re-réflexions à faire que si tu étais juste au nouveau kernel où tu as, somme toute, moins de cycles à faire, même si tu dis que ça consomme plus là, mais ça consomme moins globalement, puis ça retire de la latence en fou, parce que si on doit filtrer en IP interval ou en BGP, ben, ta latence est induite et grandissante. Là, tu es directement kernel. Fait qu'il y a peu ou pas de latence supplémentaire qui est rajoutée. Fait que c'est un très, très, très intéressant. Nous, de télémétrie, puis tu en parlais, ou l'instrumentalisation, c'est que tu es capable d'avoir quand même beaucoup d'informations sur ça.
Mais c'est ça. On est capable d'avoir de manière native et quasiment... Donc, encore une fois, au lieu d'aller analyser le trafic, donc de devoir sniffer, comparer... Mais là, on a l'information à la source. Donc, cette information-là, on peut directement la stocker là où on veut, donc dans notre logiciel de télémétrie ou de... Donc, on a un accès direct à l'information. Donc, ça n'a pas de coût pour récupérer cette information-là. Et encore une fois, on a la vision à tous les différents niveaux du kernel, de par où, donc entre le routage, les différentes interfaces, par où le paquet pourrait potentiellement passer au niveau du routage. On a toutes ces informations-là par défaut, sans devoir aller les chercher de manière complexe. Donc, on arrive à la fin. Je pense que l'interface de Cilium s'appelle Hubble, comme le télescope. Donc, on arrive à voir de manière très précise où partent les paquets, où vont les paquets, s'ils sont réjectés ou coupés, à quel endroit est-ce qu'ils sont coupés et pourquoi. C'est la chose la plus proche qu'on avait Laquelle je pourrais faire un parallèle, c'est avec Istio. Donc Istio, il y a une interface qui s'appelle Kali. Donc Istio, qui est un service mesh, l'idée c'était, ben, on a un proxy à côté de chacun des pods. Donc quand un pod veut parler à un autre pod, le trafic passe par le proxy et le proxy lui s'attache, entre autres, c'est de prendre de la télémétrie là-dessus. Et plus de faire de l'encryption, donc du mutual TLS par exemple, qui est une manière de dire je veux que ce pod il parle à que, il n'y ait que lui qui parle à lui. Donc on est capable de donner une identité, de valider l'identité et de crypter entre les deux le trafic. Donc ça c'est le côté la sécurité et supervision avec le service mesh, mais on a quelque chose au milieu. Ça veut dire que là on a généré des paquets qui sont descendus dans la stack réseau, qui sont remontés dans la stack du proxy, qui ont été analysés par le proxy, qui redescendent dans la couche réseau pour aller à l'autre pod, et puis c'est le même cirque de l'autre côté. Là, avec IBPF, on vient de couper tout ça. On intercepte au niveau du kernel l'information, on en déduit par où doit passer le paquet. Le paquet a une route, entre guillemets, directe jusqu'à l'autre pod, de l'autre côté, ou l'autre container de l'autre côté. En vrai, on est capable, avec une micro-application, de faire une espèce de MTLS. On est capable d'encrypter le trafic, si on veut, d'un pod à l'autre. Et tout en récupérant la métrologie au milieu sans avoir dû descendre profondément dans des couches réseau jusqu'à remonter pour être analysé par un proxy. Donc on vient d'économiser encore là-dessus. Donc en termes de performance, on est encore largement au-dessus.
Oui, il y a un gain énorme par rapport à tout ça. Moi, ça fait pas mal le tour de ce que j'ai comme question. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu aimerais aborder qu'on n'a pas couvert?
Alors, le dernier élément dont on n'a pas vraiment parlé, c'est parce qu'au début, je disais, en général, on a un réseau privé pour les services, un réseau privé pour les pods, et puis on a du routing à faire. Il y a quelque chose qui s'est mis en place il y a quelques années, et il y a plusieurs cloud providers qui ont embarqué là-dedans. C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi nos pods n'ont pas des IP routables, tout simplement, dans notre réseau? Donc, quand tu as des IP routables, c'est beaucoup plus simple parce que tu peux naturellement, un pod, le trafic qui sort d'un pod va aller au pod d'à côté. Il n'y a pas besoin de mécanisme, de route spéciale, de masquerading ou de je ne sais pas quoi. L'un parle à l'autre. Ça a beaucoup d'avantages. Quand on parle du trafic qui arrive de l'extérieur, par exemple d'un load balancer cloud et qui doit envoyer le trafic entre trois pods différents qui sont sur potentiellement des serveurs différents, au lieu de devoir savoir sur quel serveur ils sont, de faire des règles, encore une fois, de réécriture pour remonter jusque dans le pod. Mais là, les pods, ils ont des IP routables. Donc, ça part du load balancer, ça tape directement dans le pod. C'est beaucoup plus direct. Alors, quand on fait ça et qu'on n'a pas la bonne couche réseau, par exemple, là, on perd le côté sécurité, on perd le côté, ou en tout cas, on en perd une partie. Donc, ce que je voulais dire, c'est la nouvelle mode, entre guillemets, c'est d'avoir des pods avec des IP routables, d'avoir cette couche que Cilium, entre autres, et IBPF offrent, de pouvoir toujours avoir des network policies, même si c'est des IP routables, puisqu'on intercepte tout le trafic réseau entrant et sortant, et donc on est capable de l'analyser, de le valider ou pas. Et c'était quoi mon dernier point? Écoute, je ne sais plus ce que j'allais dire, mais c'est la dernière tendance, et c'est ça, c'est que par exemple, sur AWS, on peut très bien utiliser le CNI donc, qui est de natif de AWS. Donc, on va utiliser la partie qui fait que AWS va donner des IP du réseau routable à nos pods. Ça, c'est AWS qui s'en occupe. Mais on est quand même capable de déléguer la partie CNI de justement de sécurité, de règles de firewall, entre guillemets. On est capable de déléguer ça à Cilium. Voilà. Ce qu'on n'est aujourd'hui pas capable de faire avec Google Cloud, par exemple, mais Google Cloud a ce qu'ils appellent dans GKE le Data Plane V2, qui est une implémentation de Cilium. Donc en fait, chez Google, tu le prends sur l'étagère, c'est eux qui le font pour toi. Chez AWS, tu peux le faire toi-même en utilisant donc la partie AWS pour donner des IP et la partie Cilium pour faire ton routage transparent et pour faire ta sécurité.
C'est chouette, ces affaires-là. J'en conclue que c'est l'ensemble du sujet qu'on a vidé pour cette fois-ci.
J'imagine qu'il y en aurait beaucoup plus à dire, mais pour aujourd'hui, je pense
une bouchée à la fois. Excellent, je te remercie énormément. C'est toujours très plaisant, ces rencontres.
Merci à toi, Nick. Bonne soirée.